nous sommes mardi matin sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et aujourd'hui, nous avons deux sujets à traiter. L'un qui s'inscrit dans la semaine sur l'artisanat et qui concerne les bouquinistes. J'ai invité deux bouquinistes pour parler de la situation actuelle des bouquinistes sur les quais de Seine. Et le deuxième sujet est une exposition de photos qui va avoir lieu ce soir. Nous parlerons en deuxième partie de l'émission. Bonjour tout le monde. Et donc, pour parler de la situation des bouquinistes aujourd'hui, j'ai invité Laurent Kenen, qui est aussi commissaire d'exposition, qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir avec plaisir dans cette émission pour parler des expositions qu'il organise. Il organise tous les ans trois expositions, l'une sur la mort, l'autre sur l'érotisme et la troisième sur l'amour. Et nous avons Luc Taille, le leader de la souris, le fameux leader de la souris déglinguée, qui est bouquiniste depuis un sacré bout de temps, me semble-t-il, et qui déjà avant avait un rapport avec l'achat et la vente de livres parce qu'il a des domaines de compétences, par exemple en sinologie, et qui pouvait acheter à un endroit un livre et le revendre à un autre endroit. Et donc, salut tout le monde. T'as pas besoin de mettre le casque.
Bon, d'accord, okay, ok.
Tu peux parler. Salut Létaille, salut Laurent.
Salut.
Et ça fait combien de temps que tu es bouquiniste, toi ?
Bon, écoute, si je compte les années, depuis 2017, ça fait donc quelques années. Voilà.
2017, voilà. Donc ça fait 6 ans.
Voilà.
Et avant, tu achetais des livres, par exemple, chez Verrier, puis tu les revendais au
quartier latin. Écoute, je crois que mon destin est quand même lié à tout ce qui ressemble à un bouquin.
Ouais.
Puisque, bon, tu n'es pas sans connaître ma compagne.
Qui nous manque beaucoup, je l'ai invitée, mais elle ne pouvait
pas
venir.
Mais elle est un peu loin, et elle serait venue. On est un couple de bouquinistes, et comme tu le sais, je l'ai rencontrée dans une... la première fois que j'ai vu, c'était dans une bibliothèque universitaire. Et puis la fois d'après, c'était la bonne. Je l'ai croisée à la librairie parallèle.
Excellent.
Voilà, donc toi,
on est dans l'histoire.
Je suis les bouquins, je crois que depuis l'âge de 15 ans, je suis un peu dedans. Donc quand j'étais gamin, évidemment, j'allais au marché aux puces. Je faisais déjà les vide-greniers. Et puis on peut dire que ça a continué. Voilà.
Et donc oui, je t'ai vu aussi dans des ventes de, des vide-greniers. Dans mon quartier, tu venais à des vide-greniers, regarder des livres qui étaient vendus par des amateurs à la butte aux cailles, là. Je t'ai vu,
ouais, absolument.
Je t'ai vu passer comme avec le vrai pro qui vient,
Je ne sais pas s'il y a un atavisme familial qui a joué là-dedans, mais j'ai... En fait, quand j'ai rempli mon dossier à la mairie de Paris là pour devenir postuler, je me suis rappelé sur le coup que ma grand-mère était une sorte de chiffonnière puisqu'elle avait un stand au marché aux puces à Saint-Ouen.
Je l'ai vu une fois. C'est une petite dame.
Alors cette petite dame, c'est ma maman. Mais là, je te parle de
j'ai
ma grand-mère.
J'ai vu ta maman.
Ma grand-mère, elle était. Donc toi, ça remonte aux années 30, aux années 40.
Ah oui, non, je n'ai pas vu.
Donc à cette époque-là, tu n'étais pas encore dans la course, moi non plus. Et donc, je me suis rappelé que ma grand-mère avait été comme ça, était une petite marchande, ce que je suis donc devenu sur le tard, donc un marchand de bouquins, quoi.
Et je me suis demandé, est-ce que tu vends aussi des livres sur le rock ? Tu as une expertise là-dessus ? Il y a des gens qui viennent que
Ouais, ben écoute, je te dirais que on pourrait croire que j'ai fait une boutique pour vendre du rock et tout ce qui ressemble à du rock. Non, pas du tout. En fait, j'ai très peu de bouquins sur le rock. J'ai toujours une biographie de Iggy Pop. Que j'ai toujours pas vendu. Apparemment, je sais moins bien vendre. Et si, j'ai vendu ma collection de Maximum Rock'n'Roll. C'était un fanzine de, comment dire, de San Francisco, que je suivais depuis les années 80, là, j'ai tout vendu.
Et c'est un peu, tu ne l'as pas vendu sur les quais, tu l'as vendu en ligne.
Si, si, sur les quais, ouais, ouais.
Un numéro par numéro.
Ouais, j'en avais. Bon, de toute façon, j'avais les. Comme on dit, j'avais les têtes. Donc c'est ce qui se vend le mieux. Et ça m'a été acheté par les Américains le plus souvent. Donc on dit merci aux Américains.
Et donc sinon, tu as un bac avec l'Asie, quoi. Beaucoup de livres sur l'Asie.
Alors, ce qui me particularise. D'ailleurs, je suis vendu comme ça par les collègues. Et donc, à chaque fois que des gens demandent des livres sur l'Asie, en fait, à des bouquinistes, les bouquinistes me renvoient vers moi.
C'est bien,
donc
c'est cool.
C'est sympathique, cette solidarité. Ouais,
c'est très bien, c'est vachement bien.
Et mais pour ce qui est de la vente de livres asiatiques, je n'ai pas beaucoup de mérite. Comme tu le sais, j'ai des. Je fais partie du lobby des Eurasiens. Donc forcément, j'ai beaucoup de livres sur l'Asie, et ça, je sais assez bien les vendre.
Et je suis venu à ta thèse, à ta soutenance de thèse, c'était à l'INALCO.
Ouais.
Et c'était quoi le sujet de ta soutenance de thèse?
Tu veux que je te parle de ma soutenance de thèse?
Juste donner le titre.
Ah ouais, alors ça s'appelle Parlons lu. Pardon, la soutenance de thèse, c'est pas ça. Parlons lu, c'est le bouquin que j'ai fait après. Publié chez l'Arbatan. Dans ma soutenance de thèse, c'était une contribution à l'étude des langues thaïs, le cas particulier du lu. Donc c'est un dialecte, une langue régionale parlée dans le sud de la Chine,
au
nord
du Laos. Voilà, ouais. J'avais compris, j'y étais. Oui, mais c'était magnifique, une très belle séance dont j'ai gardé un souvenir ému. Et toi, Laurent, ça fait combien de temps maintenant que tu es bouquiniste?
Ouais, ça fait un an et 3 mois.
Ah oui, tu comptes les jours quand c'est l'amour.
Près, ouais. Ouais, j'ai commencé en août. Ouais.
Et qu'est-ce que tu vends?
Moi, c'est des poches, surtout littérature française, étrangère. Bon, j'ai des livres en italien aussi, en portugais, puis en anglais.
Donc ça fait tu es frais, hein, comment ça se passe, quel est ton ressenti sur cette activité neuve pour toi?
Bon, comment dire, en fait ça marche bien l'été, là ça fait 15 jours, bon, j'y suis allé une fois, je suis pas beaucoup allé parce qu'il pleut tous les jours, donc c'est une activité qui marche surtout quand il fait beau, quoi. Donc c'est à temps partiel. Mais sinon, c'est sympathique, c'est bien, ouais. Hein, c'est agréable. Hein, je rencontre des gens de partout, de tous les pays. Il y a beaucoup de discussions, d'échanges, beaucoup de renseignements. On donne beaucoup de renseignements sur les directions. On me demande pour aller à la gare de Lyon, à Montmartre, partout.
Donc, voilà. Mais ils t'achètent des gens, les gens qui te demandent?
Ils m'achètent, un peu, ils m'achètent aussi des livres. Ouais, ils m'achètent des livres, mais si, si.
T'es sur le chemin entre les Galeries Lafayette et Notre-Dame.
Ouais, c'est ça.
Vous êtes sur le même quai, il s'appelle comment le quai où vous êtes?
Quai de Gèvres.
Quai de Gèvres. Oui, ouais, voilà. Ouais, on est à chaque bout du quai, quoi, du même quai.
Et puis, il y a toute cette histoire avec les Jeux Olympiques. Il y a cette histoire avec les Jeux Olympiques.
C'est une histoire, ouais.
Est-ce que tu veux en parler?
On va être sauvés par les Tahitiens. Tu sais, les Tahitiens, ils s'occupent de notre mer. Et je crois que les Tahitiens vont prendre la mairesse de Paris en otage. Donc, ouais. Notre situation va s'arranger.
Et donc c'est la mairie, en fait. Moi, je croyais que c'était la préfecture, en fait, qui veut vous expulser. C'est que les trucs de service d'or, ça dépend de la préfecture, ça dépend pas de la mairie.
Ouais, alors, écoute, moi, je vais pas m'apesantir là-dessus. Après, je laisserai la parole à Laurent. Mais en trois mots, je vais essayer de dire le truc tel que je le ressens. Bon, d'abord, je suis très optimiste. Très optimiste. Car, de toute façon... Il y aurait un bouquiniste à expulser, ce serait très facile. Maintenant, il y a la 160. Mmh. Donc, ça veut dire... si pour l'instant, il n'y a rien de décidé. Il n'y a pas d'arrêté préfectoral, il n'y a pas d'arrêté de quoi que ce soit. Donc, il faudrait que la mairie de Paris envoie 160 lettres de mise en demeure. Donc, on est encore dans un pays qui n'est pas totalitaire. Ça serait en Chine... ou au Vietnam,
ça serait
l'histoire serait vite réglée, ouais. Avec les bulldozers, tout ça, sur les parapets, un coup de pelle et c'est...
Ça s'est réglé tout de suite.
Et c'est fini, quoi, tu vois. Bon, donc, mais ça ne va pas se passer comme ça. Donc, je vois très très mal, si tu veux, les fonctionnaires de la mairie de Paris nous envoyaient plusieurs lettres de mise en demeure, tu vois, avec des accusés de réception, et aller chercher à la poste. Après, faire venir des huissiers, tu vois, ça fait beaucoup de travail, beaucoup de paperasse. Donc, moi, je pense que ce qui va se passer, c'est le chef de la sécurité des Jeux Olympiques, il l'a dit dans Le Parisien il n'y a pas longtemps, il dit qu'il n'y aura pas de plan B. Donc ça veut dire qu'il y pense déjà au plan B, c'est-à-dire un raccourcissement du parcours de navigation des pirogues olympiques.
Ouais.
Donc je pense que sauf si je me trompe, mais je pense que les pirogues olympiques, elles vont pas démarrer au pont d'Austalis, elles vont démarrer là où ça sera facile à surveiller, c'est-à-dire à la hauteur du Louvre.
Ouais.
Et écoute, s'ils font ça du quai du Louvre, enfin du pont du Louvre jusqu'au pont d'Iéna, moi ça me dérange pas. Ça me convient parfaitement.
Je suis d'accord.
Et puis sinon, ce qui serait encore plus drôlatique, et un peu, ça va faire pleurnicher le comité des Jeux Olympiques. Mais vu la situation actuelle, l'urgence, le dispositif, urgence attentat, tout ça. Donc on peut prévoir aussi, un véritable plan B, c'est-à-dire, si tu veux, la piste aux étoiles que tu as bien connue à l'époque de Gilles Margaritis sur le Stade de France. Donc à mon avis, c'est ce qui va arriver, c'est-à-dire que, bah, écoute, les pirogues olympiques, elles vont tourner, mais au Stade de France, ça sera largement suffisant.
Mais je pense qu'il pourrait le faire de l'autre côté, ouais. Il pourrait le faire depuis Ivry jusqu'à ce qu'il y ait des bouquinistes, tu vois, par exemple. Bon, il y a des bouquinistes, il y en a tout de suite, mais ouais, non. Enfin, c'est un truc aberrant. Mais on viendra manifester, et puis il y a 2-3 personnes qui se brûleront vivantes s'ils vous attaquent les bouquinistes, donc ça devrait marcher. Il y a une espèce de... Il y a une inflation de chiffres, par exemple, sur Facebook. Tu as 2 500 000 personnes qui likent un truc avec une vue des quais, des bouquinistes au 18e siècle, 19e siècle. Le titre « J'ai Gallimard » d'une poésie d'Apollinaire vachement beau, avec un petit dessin d'une boîte de bouquinistes. Enfin, ça fait un... Ça devrait être bon pour les affaires. Ça fait un buzz absolument fantastique. Et donc voilà, et quoi d'autre ?
Ben oui, en fait, parce que jusqu'à maintenant, je regardais ce matin, toutes les ouvertures de Jeux Olympiques sont faites dans les stades pour des questions de sécurité, justement, parce qu'ils peuvent contrôler les gens à l'entrée, les sacs et tout ça. Donc ce qui serait logique, là, à moins qu'ils enlèvent aussi les immeubles parisiens, les ponts, ils n'ont pas de sécurité sur la Seine.
Et puis, ils ont aussi, par deux fois, été nagés. Puis, ils devaient aller nager, ils n'ont pas été nagés,
bah ouais,
parce que c'est très pollué.
Donc,
on est dans une histoire de dingue.
Il faut déplacer l'ouverture des JO au Stade de France, comme tu disais.
Ouais, je suis d'accord.
Ce qui serait plus tranquille.
Ça serait logique. Non,
la punition, je pense, pour l'équipe municipale, une vraie punition, ça ne serait pas le Stade de France, si tu veux. C'est de les, de faire ça, au Stade Charletti.
À Charletti, c'est bien.
Dans le 13e, ça sera très dur. La bonne punition, quoi, tu vois, je veux dire.
C'est très très bien. C'est à côté de chez moi.
Bon, déjà, les épreuves de surf à Paris, ça se passe à Tahiti, donc...
C'est logique.
Tout pourrait bien être délocalisé au Stade Charletti.
Mais le Stade Charletti, pour le surveiller, il est formidable. Hein. C'est juste une armature en béton avec énormément de trous. Enfin, un hélicoptère suffit.
Sinon, il pourrait nous proposer à Laurent,
un drone.
Laurent et à Sébastien et à tous les gars du Quai de Gèvres et de lequel hôtel-lille, c'est de nous payer pour être la propre sécu de nos boîtes. Donc on ferait les vigiles le jour de l'inauguration. Donc on nous file un tabouret, un uniforme et on est devant nos boîtes. Et puis on surveille nos boîtes.
Ouais, c'est une bonne idée. Ouais.
Voilà.
Ouais, on pourrait faire ça. Ouais. Ouais.
Voilà.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et donc, revenons à l'essentiel, la vie de tous les jours dans les boîtes. Alors bon, ça fait... Il y a encore des... Comment ça marche ? Comment ça marche ? Il y a encore beaucoup... Il y a des gens qui viennent, il y a du contact, ça brasse, on t'apporte des livres.
Bah, surtout avec les livres explosifs. Tu sais, les livres fusils. Ouais. Qu'il y a des livres quand même explosifs qui se vendent mieux que d'autres.
Et donc, mon invité, la semaine prochaine, par téléphone, qui est un Lausannois, en 1969, a mis un drapeau sur la flèche de Notre-Dame en faveur du Viet Cong.
Alors, écoute,
sur la guerre du Vietnam.
Là, tu me tends la perche. Tu veux dire que t'es invité en Suisse ?
Oui.
Ouais, ouais. Bah, tu vois, je connais l'histoire. Je connais l'histoire du drapeau sur la flèche.
Ah, c'est vrai ?
Ouais, très très bien. Si tu veux, j'ai appris tardivement que les supporters du Viet Cong avaient mis un drapeau Viet Cong sur la flèche. Et j'ai toujours pensé que c'était des compatriotes du quartier latin, donc des camarades communistes du quartier latin. Mais j'ai appris de source sûre par que c'était parce que j'en connais certains, donc c'est mes aînés, quoi, tu vois. Et en fait, non, c'est pas des Vietnamiens qui ont fait le coup, ce sont des Helvètes.
Oui, donc il vit. Alors, des Helvètes. J'interviewe un de ces Helvètes la semaine prochaine.
Oui, alors ces Helvètes, parce que les Vietnamiens que je connais, là, mes aînés, ils m'ont dit bah, nous, on n'était pas assez sportifs. Il fallait des alpinistes, donc des Helvètes, qui supportaient, qui soutenaient la cause des Viet Cong. Donc ils ont fait un repérage, et puis j'ai trouvé ça, c'était fabuleux, quoi.
Je suis absolument d'accord, ouais, c'est absolument.
Et puis, le gars te le dira, parce que moi j'ai lu que j'ai pas lu son bouquin, j'ai lu l'article en vietnamien, j'ai fait un effort, sur l'histoire, sur l'aventure. Ouais. Donc, apparemment, ce qui est très très drôle, c'est pas seulement ce que les Helvètes ont fait, poser le drapeau, c'est que. Le problème que ça a posé, aux forces de police pour enlever le drapeau.
Ben évidemment.
Parce qu'il fallait des capacités physiques que les fonctionnaires de police n'avaient pas. Ils ne pouvaient pas déjà aller en haut de la flèche, il fallait vraiment être un Suisse pour ça, quoi. Alors celui qui a enlevé le drapeau, si tu veux, ben figure-toi que c'est un Eurasien qui était pompier et qui était aussi acrobate. Et c'était un Eurasien, et lui, bon, il a été héliporté, et il a été, avec une corde, il est descendu, et il a enlevé le drapeau. Donc t'as vu tout un dispositif de...
Mais c'est formidable, parce que on parle en fait très profondément de ce folklore parisien, donc les bouquinistes, la flèche, vous étiez sur les quais quand ça a brûlé. Victoire m'a raconté qu'elle avait pleuré, qu'elle voyait en direct les flammes qui sortaient de... Notre-Dame, etc. L'intoxication au plomb, etc. Donc on est vraiment... on est dans le sujet. Et là, c'est le Notre-Dame, les quais, les bouquinistes, l'accordéon, la musique, le musette.
Et la flèche. La flèche.
C'est pour ça que c'est important qu'on soit là pendant qu'il y ait les Jeux Olympiques.
Sinon c'est indispensable, putain.
Les gens, ils vont venir pour voir en partie les bouquinistes. Ils ne viennent pas que pour voir le sport. Ils viennent aussi pour voir Tour Eiffel, les bouquinistes, Notre-Dame. Voilà. Et si on n'est pas là, ils vont dire, ils sont où ?
Et je trouve que vous deux, par rapport aux bouquinistes en général, vous devriez toucher une subvention importante parce que vous vendez des livres.
Ah oui, on vend des livres. Ouais.
Parce qu'il y a vraiment des mecs qui vendent de la camelote fabriquée en Chine, ouais. Pour lesquels je n'ai aucune estime. Et même les gens... Oui, un petit marché de la gravure, du dessin, etc. Mais ça commence à être remplacé par des choses qui sont fausses, qui sont fabriquées en série, ailleurs, tout ça. Tandis que le bouquin a une belle résistance, quand même. Il représente ce qui était l'essentiel de nos vies. Maintenant, moi qui arrive à la fin de celle-ci, j'ai quand même vécu pour le bouquin, par le bouquin. Mon hôtel... Ou pour prier, c'est quand même les bouquinistes. Enfin, c'est quand même quelque chose. L'essentiel de mes échanges a été d'écrire pour des journaux, des revues, écrire des livres. Enfin, c'est toute ma vie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est sûr. Et puis, de toute façon, les gens qui viennent, ils viennent tous les jours nous voir pour nous dire on vous soutient pour les JO, tous les jours. Et c'est vrai qu'ils passent du temps à regarder, à chercher. À acheter, voilà, c'est pas comme les affiches ou les souvenirs de Paris. Ça, il y a d'autres boutiques pour ça.
Et même toi, comme je vois, je te suis sur Facebook et tu fais des posts, tu fais des photos formidables du quai en dessous, tu mets des fois, tu sais, je vois ton activité tous les jours sur Facebook. Même toi, tu restes très ouvert à cette découverte. T'as un type qui donne des cahiers du cinéma d'il y a 20 ans. Tu les lis, tu les regardes pendant les temps morts, tu les commentes, enfin c'est tout à fait raccord, tu les vends.
Et je les vends pas assez cher, et les gens ils achètent, ils me disent c'est pas assez cher, ils me donnent plus, c'est vous, ça me fait engueuler.
Et c'est amusant parce que tu les vends, par exemple il y a un mec qui va venir acheter un numéro avec la date d'anniversaire de son père.
Ouais, c'est
pour
ça.
Pour offrir à son père.
Il cherche la date d'anniversaire et le mois, et ouais, ça part bien. Hein. Ouais.
Et c'est bien, hein, comme... Ouais.
Livre sur le cinéma, ça part très très bien.
Et vous vendiez Union, il y a un beau-frère qui vous avait filé les Unions, là.
T'as retenu, donc.
Et ça m'a beaucoup frappé, ouais.
Ouais, alors, si tu veux, comment dire, pour un bouquiniste, vendre Union, si tu veux, c'est le summum.
Et ça part bien.
c'est le summum. Bah, si tu veux, faut que je fasse un rappel historique. Comment je suis rentré en possession de la célèbre
collection complète Union.
En fait, c'était une copine a débarrassé le pavillon de son père. Elle me dit, il faut que tu le débarrasses.
Qui ça?
Une copine. Ah oui. Elle me dit, il faut que tu me débarrasses des affaires de mon père, parce que le pavillon, il va être vendu, donc tu vides les bouquins, quoi. Et puis alors, je prends des bouquins, il y avait des bandes dessinées de son frère, des comics, etc. Puis je vois une pile d'Union, je dis, ton frère aussi, il pratiquait l'Union avec les livres. Et puis, non, c'était pas mon frère, j'ai trouvé ça sous la chaudière, ça devait être à mon père. Donc, je lui dis, apparemment, ta mère, elle n'était pas au courant qu'il avait un rapport avec Union. Ben non, elle m'a dit, bon. Donc j'ai récupéré, je lui dis, qu'est-ce que je vais en faire? Alors, j'ai amené ça sur le stand, puis tu sais, il y a un café en face de mon stand,
ouais,
le Marguerite, et puis il y avait un patron très gaulois et très grivois, et il m'a dit, ouais, je t'en achète, je vais faire une décoration dans les toilettes du café. Donc à un moment donné...
À Châtelet, c'est ça, à Hôtel de Ville.
À Hôtel de Ville.
C'est hyper chic, c'est sympa.
Devant la pissotière, au sous-sol, il avait mis... sous verre, il avait mis des couvertures d'Union. Il dit ça, c'est pour inspirer les.
Et donc c'est marrant parce que je peux te dire pourquoi j'ai remarqué Union. J'étais journaliste dans un journal fémino-gauchiste qui s'appelait Enfant d'abord. Et je discutais avec mon DA, mon directeur artistique, il était homosexuel, il aimait bien les petites annonces. Et donc on discutait de petites annonces et il avait acheté un numéro d'Union et il me montre il me passe l'Union. C'est la première fois de ma vie que j'ai un numéro, c'est à la fin des années 80, début des années 90, c'est la première fois que j'ai un numéro d'Union dans les mains. Et je regarde et je dis, c'est complètement fabriqué. Il n'y a personne qui écrit comme ça sur la Terre, c'est les journalistes d'Union qui écrivent les petites annonces. Et donc on a un débat, et donc je me souvenais de ça, donc c'est toujours lié à l'écriture, en fait. Tout ça est lié à l'existence du fait d'écrire. Par exemple, t'as un mec qui a révolutionné la littérature pornographique, et ça se vend très bien. Quelqu'un est venu ici parler de ça, mais j'ai oublié son nom. Ex-Braya, peut-être, qui s'appelle. Et le mec, il a arrêté d'utiliser le vocabulaire 18e-iste. Pour les scènes de sexe, tout ça, il a pris un vocabulaire moderne. Et les gens qui les achètent, ils veulent avoir les 100 exemplaires. C'est des gens de livres. Ça lui prend 15 jours d'en écrire un, donc il en a écrit une centaine. Il est mort il y a 2-3 ans. Et ils sont collectionneurs. C'est comme San Antonio.
Alors tu sais qui achète maintenant, peut-être faut que je te dise, qui achète Union?
Non.
Principalement, c'est les jeunes couples. Les jeunes couples. Ouais. Ils n'ont jamais vu ça, quoi, tu vois. Donc, et pour eux, c'est un produit vintage.
Ah, c'est totalement vintage, parce qu'avec Internet, évidemment, ces choses-là n'ont plus cours, j'imagine. Enfin, tu vois, c'est quand même très peu fonctionnel.
Il y a du texte, c'est du texte.
Mais des livres érotiques, j'en vends. Hein.
Ah, mais c'est toujours une marchandise qui se vend.
Et bien, plutôt à des jeunes femmes, d'ailleurs.
Oui.
C'est curieux. Je pensais que c'était des vieux monsieur qui allaient demander des livres érotiques, mais non, c'est des jeunes femmes.
Mais il y avait une librairie de livres érotiques et le mec était très sympa. Ben, c'est le type du regard moderne. Il était à la place d'Anton, là. il a un double prénom comme nom de famille. Jacques Noël, il s'appelait, voilà. Jacques Noël, et quand je faisais mes revues, Jacques Noël m'achetait des numéros de revues et me les payait cash. Ça, c'est extraordinaire. Il avait un réseau de collectionneurs en province. Il m'achetait 10 numéros 1, par exemple, et ils étaient vendus. Lui, il les vendait à Lyon, à Montpellier et tout. C'est une pure merveille. Et le mec était... Sa librairie était extraordinaire. Il y a eu un film d'une heure sur Arte, sur Jacques Noël, sur le regard moderne. C'est une espèce de monument. Enfin, c'est comme... le facteur cheval, là. C'est du niveau du facteur cheval, ça, les bras. Ouais. C'était vraiment fabuleux. Et avec Olivier, qui va parler après, on parlait d'une revue qui s'appelait Culte, dans laquelle il y avait Tylock qui s'était fait couper les cheveux, et qui était une très belle revue en quadrille extrêmement étincelante, et que Jacques Noël avait mis sur le côté de sa vitrine, il l'avait épinglé. Et donc, elle est restée pendant 10 ans. Et c'était une impression helvétique absolument fabuleuse, avec des couleurs pétantes comme tu vois jamais, enfin un truc pop à mort. C'était vraiment très 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 bien fait, somptueux, un grand format A3, et magnifique, magnifique.
Édition Helvète.
Ah ouais. Et bon, ben, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous allez bientôt retourner. Mais non, c'est fini, là. C'est... Mais toi, tu te bosses tout le temps, en fait. Pas, tu vas pas les jours de pluie.
Ah si, moi, j'aime bien les jours de pluie.
Si, si. Tu vas aussi les jours de pluie. Ouais, ouais. Jour de pluie.
Moi, j'ai fait exprès de venir les jours de pluie. Donc, du coup, j'ai le monopole sur le quai de Gèvres. Il n'y a personne.
Et donc, ouais. Et puis, il y avait aussi, il y a des ventes, par exemple, les gens, quelqu'un qui veut acheter Bagatelle pour un massacre de
Céline. C'est vendu déjà, ça y est, c'est fait.
C'est fait, tu vois. Fait.
Ouais. Alors, il faut dire la vérité, c'est que bon, les acheteurs de Bagatelle ne sont pas ceux qu'on croit. Pas ceux qu'on croit. Donc, un jour, j'avais récupéré un exemplaire, pas en très bon état, d'ailleurs. Donc, l'éditeur, je crois que c'est... C'est de Christmas.
C'est de Noël, à
c'est
l'époque.
C'est de Christmas, on traduit en anglais.
Of Christmas. À Noël, Christmas. Of Christmas.
Ouais. Of Christmas.
Ouais, donc c'est des jeux vraiment terrifiants.
Je vois arriver de lycéenne, avec une voix toute fluette que je ne vais pas reproduire, quoi, tu vois. Et elle voulait acheter un livre, un bon livre de Céline. Alors je dis... Alors, tu sais, je me suis dit, tenez, j'ai des livres de poche, là. Non, mais on ne veut pas une édition comme ça, on veut un autre livre de Céline. Alors, voilà. Et je lui dis, c'est pour vous, non? C'est pour faire un cadeau à mon ami, donc à un jeune lycéen. Donc, elle a acheté le...
Ça coûte cher, non?
L'exemplaire d'époque de...
Ça coûte cher?
Édition. Ça vaut le prix que je l'ai vendu et qu'elle a accepté de payer. Donc j'ai fait une réduction de 10 euros. Après, j'ai fermé le stand tout de suite. C'était plus la peine de rester.
Ouais, c'est bien. Et donc il y a aussi...
De Christmas, retenez les noms de l'éditeur. De Christmas.
Il y a la société du spectacle de Bord, le premier, l'original.
Je l'ai.
Ouais, c'est ce genre de choses comme ça. Ouais. Des choses...
Mais chaque fois que je... Comment dire que, enfin, je ne vois pas souvent des trucs de mort, mais j'ai une pensée pour vous, pour toi et certains de tes camarades de la même urgence.
Et mon livre, donc, « Comment j'ai tué la troisième internationale situationniste » est vendu maintenant à 370 euros. Comme c'est le seul livre que j'ai fait dont le tirage est épuisé, le premier prix, c'est 370 euros.
J'étais libre dans mes boîtes, hein.
Oui, c'est moi qui suis responsable. On est d'accord. Bon, on va écouter un petit morceau de musique. Merci, c'était les bouquinistes. Allez les voir, c'est des gens formidables. Il faut qu'on sauvegarde tout ça.
Ok.
Ok. Je te parle du cœur et du ventre de cette capitale.
que ce soit à Jaurès ou à Stalingrad. Les graffitis en plus on dirait Islamabad. On dit que les Japonais ils ont acheté les halles et toutes les rues autour du palais royal. Mais pour cette invasion on leur pardonne, à condition qu'ils payent en demoiselles nippones. Car c'est Paris, Paris, Paris aujourd'hui. Ok je sais c'est pas un paradis. Car c'est Paris, Paris, Paris aujourd'hui. Y'en a qui payent très cher pour venir vivre ici. Les Noachs sont tout bons dans leur tour en béton. Ils ont fait du 13e leur arrondissement. Ils tiennent des restaurants, ils travaillent comme des bêtes. Comme tous les trafiquants, ils ont l'air plus connaître. Il paraît qu'il y a des bordels pleins de puits de chong. Des fumeries d'opium, on se croirait à Hong Kong. Tu descends à Tolbiac et après tu choisis. Rappelle-toi chez les Niac, le service est gratuit. Car c'est Paris, Paris, Paris aujourd'hui. Ok, je sais, c'est pas un paradis. Car c'est Paris, Paris, Paris aujourd'hui. Y'en a qui paient très cher pour venir vivre ici. Choper une maladie, tu passes sous la porte et c'est la Turquie. Istanbul, Ankara, Strasbourg, Saint-Denis. Tu comptes pas les années où tu t'es nourri de l'air chiche kebab à la viande pourrie. Mais même aujourd'hui tu fais pas la fine bouche, car peut-être que demain tu seras à nouveau sur la touche. Panam, Panam, pas Panama. Paris, Lutèce ou envers l'Henri, pas quelque part en Amérique centrale, car c'est Paris, notre capitale. Le Katmandou de notre Népal, la capitale de notre espace vital.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Allegre, en présence donc d'Olivier Brunet, que nous avons invité aujourd'hui pour une exposition photo qui s'appelle L'ADN, l'autre soi, qui se déroule, dont le vernissage est ce soir, ça commence ce soir. C'est au 222 rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8e. Et donc j'ai eu la chance d'assister à l'accrochage hier, une partie de l'accrochage, c'était pas fini, c'était pas terminé, donc j'ai un peu vu avec le photographe son travail. Bonjour Olivier.
Bonjour Fred.
Alors j'ai quelques questions pour toi, parce que Il se trouve que j'ai rédigé accessoirement le texte de présentation de l'expo, que je vais pas dire, les gens pourront le trouver en ligne.
Ça m'a beaucoup aidé.
J'en suis ravi. J'ai quelques questions. Alors, Merleau-Ponty disait en substance, la pure visibilité, on ne peut rien en dire, sinon qu'elle naît de l'écart. Alors, quel écart tu as pris pour prendre tes photos ?
Quel écart j'ai pris ? J'ai pris la tangente, j'ai pris la route, juste après, ou au milieu des Covid, pour transgresser un peu tous ces empêchements de mouvement, sous prétexte d'une carte ADN que j'ai perçue via les sites internet, où il y avait des pourcentages sur mes origines, ce qui était, et une carte d'Europe. Obscure information, que vais-je en faire ? Et j'ai pris la route. J'ai acheté une énorme voiture dans laquelle je dors pour pouvoir m'installer dans la forêt. Enfin, c'était mon intention, mais je préfère évidemment un bon lit. Et j'ai pris la route jusque beaucoup vers l'Espagne. Je me suis perdu avec des surfeurs pendant une semaine au milieu du mauvais temps. Et on est monté dans les Asturies, photographier des condors. Enfin, on ne savait pas ce qu'on allait photographier, mais on est tombé sur des condors gigantesques et des tas d'expériences comme ça qui se sont succédées. J'ai rencontré aussi un cheval guérisseur qui s'appelle Chaman, que vous pourrez découvrir. Je ne sais pas ce qu'il guérit, mais c'est un cheval guérisseur.
Donc au moment où tout le monde était enfermé chez soi, tout le monde était confiné avec des attestations, des obligations vaccinales, toi tu te promenais en voiture, tu dormais dans les bois et tu prenais les photos que tu voulais. C'était ça, c'est ça la tangente ?
C'est ça, j'ai pris la tangente,
pas mal,
oui.
Pas mal.
Et avec un ami galeriste qui m'avait fait une attestation qui n'a pas empêché la police de m'arrêter, mais ils ont eu de la compassion pour mon projet. Ils m'ont laissé rouler.
Tu n'as pas fait des portraits d'eux ?
Non, mais ils m'ont mis un beau PV, ils m'ont fait une belle dédicace.
C'est eux qui ont signé.
Oui.
Alors, Merleau-Ponty toujours disait « L'œil, l'organe de la possession à distance, de la capture de l'être par l'esprit, finalement l'organe le moins sensible.
Mm-hmm. »
Alors, as-tu cherché la dépossession, la maîtrisable ? Si oui, comment tu t'y es pris ? Comment on travaille pour être plus sensible ?
Alors ça, c'est assez étrange. On se met dans un état où les choses résonnent, où il y a l'intuition qui est là, peut-être l'instinct, et on suit aussi la lumière. Comme si, après 40 ans de photographie, on a développé un savoir sans le savoir pour aller vers ce qui nous convient. C'est un peu comme à la pêche. On ne sait pas ce qu'on va prendre, mais on sait là où aller. Un bon pêcheur sait à quel endroit il y a du poisson. Et je pense que c'est de cet ordre-là, mais sans affirmation, aucune.
Alors, qu'est-ce qu'il faut oublier pour faire une bonne photo ? Est-ce qu'il faut oublier l'appareil, la technique ou soi-même ?
Soi-même, non. C'est une espèce de transe pour moi, en tout cas, la photographie. Quand elle arrive, parce qu'évidemment, j'en fais des milliers chaque année, et c'est un état. Un changement d'état, où là, tout ça, c'est comme une apesanteur. C'est assez étrange. Enfin, c'est ma cam. C'est vraiment...
Donc tu as l'appareil en main.
J'ai l'appareil en main.
Tu marches, et là, tu sens que ta sensibilité change, que
oui,
tu changes d'état.
Oui, tout à fait.
D'accord.
C'est déjà c'est un état de perception qui s'installe malgré moi. L'appareil photo, c'est pour moi, évidemment, maîtrisé depuis 40 ans. C'est devenu rien d'autre que... La prolongation de mon regard.
Le troisième œil.
Oui, voilà, oui. L'outil, on n'en parlera pas aujourd'hui. Je suis un photographe de l'argentique des années 80-90, donc évidemment, dans toutes les circonstances. Du théâtre, pour commencer, ou la lumière, j'ai appris la lumière. La mise en scène, les mouvements, la vitesse qui est dans le noir, évidemment. Une contrainte pour un photographe qui est devenue pour moi une arme. J'adore, vous verrez dans mon exposition, des lumières particulièrement étranges.
Est-ce que tu penses comme Robert Mapplethorpe que la photo, c'est une sculpture avec de la lumière ?
Absolument.
C'est une bonne définition de la photo ?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Après, il y a le mouvement. Et le mouvement, ça, c'est quelque chose qui est lié au hasard, à quel moment on appuie. Souvent, on appuie au moment où le mouvement va se déclencher. Il y a une photographie dans mon exposition qui est très claire là-dessus, où il y a un plongeur qui plonge, je le photographie au moment où il se jette. je ne sais pas qui va rassembler ses bras pour immerger dans un trou d'eau dans les ballons des Vosges. Et ça fait une photo sublime. On ne sait même pas s'il monte ou s'il descend, tellement c'est dingue.
Oui, j'ai l'impression qu'il vole, en fait.
Il vole, elle est christique.
Il y a un jeune garçon au cheveux longs qui est en bas, on dirait Marie-Madeleine, qui regarde l'Assomption du Christ.
Voilà, exactement. Ils sont deux, là. Et tout s'est mis en place, mais ça, on n'a pas le temps de le voir. On le sent, on le pressent.
D'accord.
Et puis, il y a la chance. Il y a beaucoup de chance dans la photographie. Hein. C'est comme la chasse aux papillons.
Est-ce que tu cherches à aller au-delà de l'apparence ou au contraire à célébrer l'apparence pour l'apparence, la simple beauté de la forme ?
Oh, j'aime raconter des histoires. Donc, au-delà de l'apparence, c'est bien.
Oui, au-delà de l'apparence.
Mais toujours avec ce hasard. Je pars souvent avec des idées, mais je me fais piquer mes idées par...
Par les circonstances,
ouais,
oui. Le contexte.
Oui, tout à fait.
Et les accidents, donc, aussi.
Les accidents. Ben, je cultive l'accident, j'adore. Ben, quand on est professionnel, à un moment donné, c'est lassant de tout faire comme il se doit. Donc, je me mets dans des situations d'accident pour rendre intéressant cette aventure. Je vis ça comme une aventure.
Alors, est-ce que ça t'arrive de mettre en scène tes photos, de retoucher, de truquer, de travailler en amont et en aval de la photographie, et dans quelle mesure ?
Alors souvent en amont, oui, j'écris quelque chose, une idée, mais après je me laisse porter par les choses. Le cheval qui rêve, j'avais amené avec moi des amis, évidemment, et un sac de farine pour faire une nuée, faire partir un cheval au galop et faire une nuée. Et mon ami a lâché le sac de farine trop tôt, le cheval n'a pas bougé, il a juste... secouer sa crinière et il a créé dans le ciel un autre cheval. Donc, c'est devenu.
Forme, oui. J'ai vu la photo, effectivement. Donc,
c'est devenu un cheval qui rêve. D'accord. Mais évidemment, quand j'ai appuyé sur le bouton, je n'ai rien vu de tout ça.
Bien sûr. Donc, c'est pas prévu qu'il se bouge à ce moment-là.
Ah, bien sûr que non. Moi, il était prévu qu'il parte pour faire une nuée.
Et c'est une des plus belles photos. Elle est emblématique de ton exposition.
Elle est emblématique.
Quand on arrive, on la voit tout de suite.
Oui. C'est un hasard. Évidemment que j'ai pas vu que la farine composait un cheval dans le ciel, au-dessus de la tête de ce cheval guérisseur, je rappelle.
Alors moi, j'ai remarqué que tu prenais beaucoup de faces, de façon frontale. Hein. Tes vues étaient assez directes.
Oui.
Pas de biais, pas de tangente, pas d'ironie, pas de second degré. Mmh. Tu prends pas par en dessous, un peu sournois, par au-dessus, un peu condescendant. Tu es vraiment de face.
Oui.
C'est délibéré, c'est vraiment...
C'est lié à ma posture physique, je pense que quand on
Il faut préciser que tu es assez grand.
Voilà. j'ai un ami, un grand photographe qui travaille en parallèle avec moi sur les grands travaux du Grand Paris, qui est beaucoup plus petit que moi. Lui, il fait des contre-plongées magnifiques. je peux citer son nom,
c'est Gérard, pas sournois.
Gérard Rolando, juste... voilà. Grand photographe. Et moi, je suis plus grand, donc on compare parfois nos façons de photographier. Et en effet, moi, je suis frontal et symétrique. Et lui, il est plus bas et il fait des contre-plongées qui donnent une dynamique aux photos extraordinaire. Moi, je suis... je viens du théâtre et la scène est devant. Donc, c'est quelque part, il y a cette logique.
C'est intéressant de voir que le théâtre influence, la culture du théâtre influence ta façon de voir la photographie.
Complètement. Donc, je suis devant, et devant, il y a une scène que je peux mettre en scène, plus ou moins.
Avec un décor ?
Avec un décor, bien entendu.
Les personnages.
Voilà, exactement. Y compris avec les végétaux, les plantes que vous allez trouver, qui sont souvent des symboles... des plantes symboliques, le lotus ou le gingo bilboa, qui est l'arbre de la sagesse, plutôt de la pérennité, je crois. Des orties aussi, c'est notre première plante enfant qu'on connaît, puisqu'elle pique. Mais j'en ai fait.
Il y a un genévrier millénaire assez impressionnant.
Oui, le genévrier millénaire, j'y suis allé avec mon fils pour remonter mes origines espagnoles. On s'est arrêté à la frontière ibérique. Et là, on est tombé sur un genévrier de. Un siècle, enfin 1700 ans, qui en a vu passer des migrants entre l'Espagne et la France.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Une question qui a peut-être te dérangé, mais de quel photographe tu te sens proche ? Hier, je t'ai vu, je t'en ai parlé, tu m'as dit « je déteste les photographes ».
Je déteste discuter avec les photographes.
Ah, discuter avec les photographes.
Quand ils me parlent de matériel.
Oui.
Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais des images, donc évidemment, j'ai les meilleurs outils que je choisis. Mais si je n'en ai pas, j'ai, comme tout le monde maintenant, un appareil photo dans la poche. Donc voilà. Mais bon, évidemment, je maîtrise tous les outils de la photographie, de la chambre 20-25, puisque je suis un photographe de l'argentique. C'était quoi la question ? Ah oui, les photographes que j'admire. Alors, y en a pas mal. Et on ne va pas trouver d'ailleurs de réminiscence avec mon travail que vous allez
découvrir. Moi, ce que j'ai vu, j'ai reconnu dans Fratrie du Hervé Guibert, j'ai trouvé dans du Mapplethorpe, dans ta proue, et surtout dans le Lotus.
Oui.
Et évidemment, du quartier Bresson un peu partout. Mais ça, dès qu'on est un peu structuré, un peu symétrique, comme tu dis, on voit du quartier Bresson partout.
Ouais.
Ça veut pas dire. Et puis, bon, il est un peu indépassable.
Oui, et puis l'instant décisif, voilà. Avec cette histoire de. Il y a 3-4 photos où. Je les ai même pas vus. C'est pur instinct. Et ben, Cartier-Bresson anticipait, mais ouais. Lui aussi, quand il appuyait, l'événement était déjà passé. Mmh. Et l'appareil avait enregistré. C'est l'effet Kouletchov, un peu avant, un peu après, et on se raconte l'histoire en regardant l'image, ce grand monteur russe. Mais pour te répondre, je sais, mais sur les photographes, j'avais pris des notes, je m'attendais à la question. C'est toujours compliqué. Et donc, Martin Mountcaxey, qui a été un peu à l'origine des photos de mode de Peter Lindbergh, feu Peter Lindbergh, qui nous a quittés il y a assez peu de temps. Mario Giacomelli, qui trafique ses photos en noir et blanc. Une photo très célèbre, qui est connue dans le monde, de curé qui danse sous la neige, qui forme une gracieuse entre le théâtre et la réalité. Parce que là, il photographie des curés qui dansent. On n'est pas sur une scène de théâtre, incroyable. Pour les plantes, Karl Brotsfeld, un photographe des années 30, je crois, qui faisait du graphisme avec des chardons, toutes sortes de plantes comme ça. August Sander, pour ses grands portraits sur toute l'Allemagne jusqu'à l'Allemagne nazie. Beaucoup de photographes qui m'influencent. Bernard Plessu pour sa légèreté
dans le voyage. C'est beaucoup des marcheurs, des déambulateurs, c'est des gens qui se promènent avec leurs... C'est pas des portraitistes, là, ce que tu viens de citer, c'est pas assez peu de portraitistes.
Non.
Donc tu peux expliciter le rapport qu'il y a entre la photo et la marche, la déambulation, même l'errance.
C'est la surprise, c'est une respiration. C'est en fait un prétexte, la photo, pour vivre, quoi. Avec une ponctuation à un moment donné, et on en ramène un souvenir, comme n'importe qui.
Et à la limite, tu reviens, t'as pas de photo, c'est pas grave?
Non, c'est pas grave.
C'est comme le pêcheur ou le chasseur?
Absolument.
Il revient, il a pas pris, mais il s'en fout, il est sorti avec ses chiens.
Absolument, c'est ce que disait un grand photographe que tout le monde admire en ce moment, qui a fait la Panthère des Neiges avec Sylvain Tesson. Lui, il est photographe animalier, Vincent Munier, et il part sur la trace des loups, et pendant 3 semaines, il les cherche, il ne les voit pas, et il en prend un plaisir infini. Voilà, c'est ça. C'est la quête, c'est l'histoire, c'est le chemin qui est plus important que le but, comme souvent.
Ouais, ouais. On va quand même parler de quelques photos. Il faut donner envie aux gens de venir, donc je le répète.
Oui.
Olivier Brunet, ADN, autre soi, c'est 222 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e.
Au couvent des Dominicains.
Au couvent, le lieu est magnifique.
Le lieu est magique, comme voilà. Paris en a le secret.
Voilà, des lieux cachés. C'est des couvents qui cachent ce qu'on doit montrer et qui montrent ce qui reste caché.
Absolument.
Alors, on va parler de quelques photos quand même pour donner envie aux gens d'y aller. Moi, je les avais vues en écran, sur appareil photo, ensuite sur un écran numérique. Et c'était pas mal, mais franchement, ça ne vaut rien comparé à ce qu'on peut voir quand le tirage papier est fait.
Ouais, mais oui.
Donc, il y a quand même un chef-d'œuvre, c'est celle qui est sur l'affiche d'ailleurs, qui s'appelle Ataraxie, où les arbres se font nuages, les nuages se font arbres. Alors, tu peux raconter un peu l'histoire de cette photo?
Ah oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas, ça va la démystifier, mais je ne sais pas si je dois la raconter.
Ah ben non, alors tu dis rien. Okay, ben,
En tout cas, elle a été faite avec un appareil photo. Ça va intéresser ceux qui s'intéressent à la technique photo. À l'époque, j'avais acheté un Olga, qui est un appareil en plastique russe, avec une lentille en plastique, bien sûr, alors que moi, j'ai des Hasselblad, enfin, etc. Les meilleures optiques du monde, bien sûr. Là, c'est tout l'inverse. Et on doit remonter le film, un film 120, à la main. Et donc, je jouais avec cet effet-là. Je ne le remontais pas complètement, ou parfois deux fois. Et je pouvais faire plusieurs fois une photographie sur le même support qui m'amenait à un travail du hasard qui m'intéressait de voir après. Donc, c'est une photo de hasard, pure.
Pur hasard, oui.
J'ai juste
et c'est une des plus belles, comme par hasard.
Comme par hasard. Elle a été choisie dans 40 ans de photos, bien entendu.
Oui, tout à fait. Alors après, le travail, je vais revenir à ça, parce qu'on a l'image des photographes qui mitraillent, qui mitraillent, qui mitraillent, puis après, ils ont le plonge contact, et puis ils choisissent là où ils ont eu du pot, ou là où c'est le mieux.
Voilà.
Donc ça démystifie un peu leur travail. C'est un peu facile, la photo. C'est pas comme la peinture ou la musique, il faut savoir le solfège, il faut savoir la couleur et tout.
Tout à fait.
Et donc, en fait, non, c'est l'inverse. En fait, il y a quand même. S'il n'y a pas cette chance à saisir, en fait, tout ce qu'on peut prendre, ça sert à rien.
Bah, tout à fait. Et puis, imaginez bien sur 40 ans de photos, enfin, j'ai pas évidemment. On verra beaucoup plus les trois dernières années où la dynamique du projet a pris de la vitesse, mais j'ai voulu ponctuer quand même toute cette exposition avec des photos anciennes. Donc il y en a une de 1989 et puis ensuite ainsi de suite jusqu'à maintenant. Donc il a fallu faire des choix. Elle est plongée dans mes archives où j'y ai trouvé de la joie, mais aussi beaucoup de peine, des tas d'amis perdus, d'êtres disparus. Ça a été un gros travail psy. Ouais. Je me suis fait une analyse. Je suis d'ailleurs allé voir quelqu'un parce qu'à un moment donné, je perdais le courage. Mais la personne m'a dit, mais les gens mettent 10 ans pour faire ce que vous faites et vous, en 2 mois, vous voulez régler le problème. Et du coup, le problème est réglé. Il est sur les murs. J'ai fait donc cette exposition, enfin, créé cette exposition avec des tirages à la taille adéquate par rapport au lieu, au couvent, et avec un parcours.
C'est un récit.
C'est quelque chose d'assez apaisant. Il y a des photos plus douces, plus sans intérêt, mais c'est volontaire pour donner des respirations, et puis des punchlines, et des choses qui, jusqu'à la dernière image ou ligne de vie, qui est une photo de chantier, parce que j'ai la chance de travailler sur la mutation du territoire du Grand Paris, qui me font confiance depuis 7 ans, et j'y prélève évidemment quelques bijoux. Et la dernière image du bout du couloir est une photo de chantier où il y a une ligne de vie qui nous promet un futur.
Alors ça, c'est saisissant, cette photo. D'abord, impressionnante. Le format est très grand.
Oui.
Et ensuite, c'est quoi? Alors, c'est un câble pour que les ouvriers se repèrent?
C'est ça, c'est une ligne de vie pour pouvoir se promener dans un chantier qui n'a pas d'électricité, voilà, bien entendu, et qui vous permet de sortir et d'entrer, et vous trace le chemin.
Ouais. C'est un fil d'Ariane, quelque part.
C'est un fil d'Ariane. Et au bout de ce chemin, alors, est-ce qu'on monte, on descend? On peut faire les deux. En tout cas, on en sort. On sait où on va.
On va parler d'autres photos aussi de toi. Il y a pas mal de photos. En fait, les plantes se font poissons, les poissons se transforment en plantes. Des dunes de sable se transforment en vagues, des vagues se transforment en dunes de sable.
Alors ça, c'est un mot que souvent on mélange. Anthropomorphie, ce n'est pas l'anthropomorphie.
Non, moi je voulais te parler de taoïsme, ou alors de panthéisme, ou même de créationnisme.
Oui.
Est-ce que tu te sens... Est-ce que ce regard sur la nature, ce rapport à la nature, c'est quoi exactement?
Ah ben oui, la préciosité et la symbolique des plantes, des fleurs me parle. On a un extrait de tout ça, je crois. Mais je cherche aussi les pareidolies. C'est reconnaître quelque chose d'autre, voir un visage dans un nuage, voir des choses comme ça, et vous trouverez 2, 3, 4 fois. Ça m'amuse. Un arbre me fait un clin d'œil. Il y a un arbre cœur qui me fait un clin d'œil. Mais vraiment, moi je le vois. Bon, après...
Oh, il y a des plantes qui se transforment en oiseaux,
voilà,
des oiseaux qui ressemblent à des fleurs. Ouais.
Absolument, alors, les orties qui s'envolent.
Oui.
Ouais, j'ai mis un aigle, une tête d'aigle à côté pour accentuer.
Oui, il est incroyable cet aigle.
Pour accentuer le côté, vous voyez, si vous ne l'avez pas vu, il
vole. Alors ça serait ça aussi la photo, c'est rendre visible l'invisible?
Oui, c'est un clin d'œil. Vous voyez, on peut, pour les êtres pragmatiques, c'est leur donner un coup de pouce pour que de temps en temps ils aient... un peu de poésie dans ce monde de marketing.
Et moi, je me demandais aussi, c'est une question assez bateau qu'on pose à tous les photographes, mais comment se détermine ton champ en fonction du noir et blanc et de la couleur? Comment ça se passe? C'est prémédité? C'est sur l'instant? Et après, comment tu fais?
Oui, alors ça, oui. Enfin, si on part en noir et blanc, on est coincé. Aujourd'hui, on a les appareils numériques, donc on fait les deux. Enfin, on shoot en couleur. À part Sebastiano Salgado, qui a fait trafiquer ses boîtiers pour qu'il n'y ait plus de capteurs couleur par Canon. Moi, je pars en couleur. Mais je switch très souvent en noir et blanc, très vite, même lors de mon choix.
Mais ça dépend de quoi alors?
C'est la
lumière,
la
c'est
dynamique
le
graphique, oui.
La dynamique graphique.
Si j'ai des ciels qui sont très mous, la couleur n'apporte rien. Et je trouve qu'en noir et blanc, d'abord, on ne sait pas quand l'image a été faite. Et la couleur a une marque du temps.
Ah, tu veux dire que c'est un peu intemporel le noir et blanc?
Ah, complètement.
Et que la couleur, c'est vite mode, c'est vite daté.
Oui, ah, oui
c'est
oui.
Intéressant.
Tout à fait.
Ouais, ouais.
Bah, là, on le voit en ce moment avec tous les photographes de l'agence Magnum là, qui ressortent leurs photos des années 50-60 avec la Kodachrome, célèbre film. C'est marquant, quoi. C'est marqué. Là, il y a Steve McCurry avec ses photos célèbres de visage en Afghanistan, je crois.
Ouais.
C'est vraiment...
On trouve ça au cinéma aussi. En fait, au cinéma, on sait tout de suite à quelle époque a été tourné le film. Absolument. En fonction de la couleur.
Voilà, absolument.
On a les années 80 avec des couleurs dégueulasses, très néon, très criardes.
Ouais.
Les années 90, ça change parce qu'il y a un basculement avec le numérique et tout. On retrouve ça aussi au
tout
cinéma.
À fait. La couleur, oui, oui. Il y a eu l'époque des traitements croisés, des Rita Mitsouko par Jean-Baptiste Mondino à une époque aussi où on switchait un film... négatif en diapo ou inversement, ce qui créait des contrastes extrêmement durs et les noirs devenaient des bleus. C'était, mais voilà, chaque époque est marquée par un procédé. Aujourd'hui, c'est le numérique, évidemment. Mais le numérique nous ouvre un champ infini.
Donc il n'y a plus débat pour toi, c'est fini. Est-ce qu'on fait de l'argentique, est-ce qu'on fait du numérique? Parce que moi je sais qu'en musique par exemple, pour donner une analogie, longtemps on a préféré l'analogique au son numérique. Et on était capable vraiment de faire la différence tout de suite à l'oreille.
Oui.
Maintenant c'est de moins en moins évident. Et je crois qu'en photo c'est pareil, entre l'argentique et le numérique, on a de plus en plus de mal à faire la différence.
Oui, oui, tout à fait. Bah, à part que pour moi, c'est parce que je viens de cette époque-là, l'argentique a une peau, un grain. Et l'avantage de l'argentique, c'est que vous allez faire vos photographies. Le but, c'est évidemment pas de la retoucher. Donc ça sera brut de négatif, avec un très bon tireur derrière, sur un super papier, terminé. Et là encore, une fois qu'on a photographié avec la lumière, dans la chambre noire, c'est de la projection de lumière sur une feuille de papier. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, mes tirages que vous allez voir, c'est des énormes machines, des traceurs, qui pulvérisent de l'encre ultra-chrome encapsulée pour 100 ans, enfin, etc. Il n'y a plus ce rapport de projection de lumière, c'est de la projection d'encre sur du papier. Via un écran auparavant, etc., c'est complètement différent. Là, je pense que je me disais, il n'y aura pas de prochaine fois, parce que j'ai beaucoup souffert pour monter cette exposition, mais je vais le faire. Mais là, je partirai avec un 6-7, Mamiya, j'en ai 3, des objectifs fixes, chargés en noir et blanc, et rien d'autre, et je reviendrai avec ce que j'aurai, et on fera une exposition de 40 photos de tirage argentique.
Alors c'est bien parce qu'on s'était promis de ne pas parler technique
avant
l'interview, ouais, c'est très bien.
C'est vrai, je suis désolé.
Tu parles à nos films, c'est toujours très intéressant, je suis sûr que les gens qui aiment la photo, ça va les intéresser parce que c'est important, c'est marrant, tu parles du grain en photo, moi je suis plus spécialisé en musique, moi je parle du souffle.
Oui, c'est ça.
Dont on a un souffle, voilà, c'est le grain, c'est quelque part c'est une impureté, c'est quelque chose d'un peu impur, mais c'est ça qui fait aussi la touche. Mais c'est pas décisif, puis ça dit rien de l'artiste. C'est pas parce que on décide de faire d'avoir du souffle, d'avoir du grain que ça va être beau.
Voilà. Ben, j'ai voulu marquer justement ça. Tu as vu la photographie des oiseaux des Sawira, où là j'ai pris une pellicule pour ceux qui connaissent Tri-X classique 24-36 que j'ai fait agrandir en 1m/150, donc avec évidemment mon tireur. Vincent Rantinski, d'ailleurs, il sera content que je le
nomme. Puisqu'on parle d'artisanat.
Oui, on a vraiment travaillé ensemble, il n'en pouvait plus de me supporter. Mais bon, et on a fait exploser un grain d'un négatif, vous le verrez. Et du coup, c'est un ciel avec des oiseaux. Et ces espèces de grains éclatés qui forment des petits haricots multiples, c'est presque un dessin. C'est extraordinaire, le grain. C'est la matière ajoute à l'œuvre.
Merci beaucoup Olivier Brunet, donc je rappelle ton exposition, l'ADN l'autre soi, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré.
Au couvent des Dominicains.
Au couvent des Dominicains, évidemment.
À 18h30 ce soir, oui. Pour le vernissage.
Mois.
Et pour un mois.
Un mois.
Presque un mois, jusqu'au 6 décembre.
Très bien.
Voilà,
c'est
je voulais remercier.
Allez-y tous, nous étions sur Allegre FM 93.1, je ne dois pas crier à la fin de l'émission. Nous remercions Enrico Mastrogiovanni qui était de l'autre côté de la vide. Merci à toi. Merci Enrico. Et à la semaine prochaine.
Merci Enrico.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.